Bond. James Bond.
You fucked my wife.
Bienvenue, bienvenue, welcome.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Agorama. Cette émission est une collaboration entre le cinéma Le Majestic, Radio Agora et le Café Labo de la MJC Claude Nougaro. Et oui, vous le savez très très bien parce qu'à force de le répéter, vous l'avez intégré. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler d'un film cultissime, mais pas que. Un film traumatisant pour des générations et des générations de vacanciers, de baigneurs, à tel point qu'à la sortie du film, eh ben, ça fait un sacré coup au tourisme, parce que plus personne ne voulait y aller. Mmh. Je veux bien sûr parler des Dents de la Mer. Pour en parler, je reçois, comme d'habitude, Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour.
Élise, bonjour.
Bonjour.
Malheureusement, Jean-Baptiste ne peut pas être des nôtres car il travaille ce matin. Pas de chance, je crois qu'il a une... Il travaille avec des enfants aujourd'hui, c'est ça ? Donc il a une séance film
oui,
avec...
Une projection,
avec des petits-enfants. Eh ben, on lui souhaite bon courage. Non, après, ça va. Alors, dans Les Dents de la Mer, il y a des personnages, je crois qu'il y en a un qu'on connaît plus que d'autres, mais sinon, c'est pas des acteurs qu'on a beaucoup revus après.
Attention.
Bah, à part Rob Schneider, les autres, je les ai jamais revus, moi.
Si, t'as... Comment il s'appelle ?
Eh ben voilà, t'as oublié, c'est bien la preuve qu'on ne sait pas.
Le scientifique.
Matt Hooper, qui joue Matt Hooper.
Qui joue Hooper.
Mais je sais pas son nom.
Son vrai nom, je crois que c'est Richard Dreyfuss.
Dreyfuss, il a joué dans beaucoup de films, et notamment beaucoup de films de Spielberg. Après, il a continué.
Jamais
il a
vu
fait Rencontre du Troisième Type, il a fait Sugarland Express. Si, là, c'est... il a fait une belle...
Une belle carrière ?
Belle carrière.
À tel point que nous, on le connaît pas.
Ouais. Après, c'est ces années-là. Hein. C'est-à-dire que Dreyfuss, il a fait les années 70, puis 80. Après, petit à petit, on l'a moins vu. Mais c'est cette double décennie quoi, dans lesquelles on l'a plutôt vu.
D'accord. Ouais, après, nous, effectivement, ce n'est pas notre génération.
Il est moins connu, mais il était déjà connu, lui, parce qu'il avait fait une belle apparition dans le James Bond, dans lequel il apparaissait en super athlète russe qui venait essayer de démolir James Bond lors d'un duel.
Ah oui.
Je crois que c'était... Je ne sais pas si c'était pas Goldfinger.
Ok. Bah, Robert Shaw, c'est celui qui fait Kings.
Bon baiser de Russie.
Ah.
Voilà, Bon baiser de Russie.
Moi, je connais Golden Quint. Eyes.
Oui, Quint, c'est le pêcheur. Ça, ouais. Le pêcheur.
Qui est un peu particulier. Ah, oui. On reviendra, bien sûr.
Il a un rôle très important.
Très important. Ah, c'est son personnage qui, je sais pas, c'est un peu le rôle du gars, genre, bah, moi, je m'en fous, je suis un homme, je suis viril, je te tue du poisson, tire la rigo, et puis finalement, bon.
Alors, ça, c'est un...
On peut spoiler la fin, je pense.
C'est un petit truc de Spielberg. Vous avez les deux Américains de la classe moyenne, Brody et Dreyfuss, qui est lui plutôt l'universitaire, l'intellectuel, et le pêcheur, le prolo, le gars de... Il voulait mettre un petit peu toutes les classes sociales, que les classes sociales soient représentées. Donc c'est pour ça. Et puis il a sorti le dur à cuire, le mec qui a vécu le naufrage de l'Indianapolis, l'USS Indianapolis, qui est une réalité. Hein. Mmh. C'est un cuirassé qui a été très célèbre parce qu'il a amené quelque chose sur une île très important. Devinez quoi ?
Hiroshima.
Voilà, la bombe, bombe. Il a amené les bombes pour les bombes atomiques. Et après, sur le retour, il a été coulé par un sous-marin japonais et... Qu'est-ce qui s'est passé ? D'après vous, je vous le donne en mille.
Mais ils sont morts.
Ah ben, ils ne sont pas morts comme ça, là. Ils ne se sont pas noyés.
Bouffés par les requins.
Voilà.
Il l'explique très bien.
Bouffés par les requins. Et il le raconte.
Bah, j'ai raté cette scène.
Mais je pense qu'à un moment donné, il y a un traumatisme. Importante. Parce que ce pêcheur qui est devenu pêcheur de requins, c'est un peu, il a quelque chose, un compte à régler. C'est la suite de Moby Dick. Hein,
j'allais justement faire le parallèle avec le capitaine de Moby Dick qui a cette obsession de la baleine blanche.
Cette obsession, mais lui, c'est une obsession, ce sont les requins.
Ok. Bah, chacun son petit kiff. Hein. Moi, j'aime bien les chats, mais bon, je ne vais pas non plus les persécuter. Quoi.
Regarde, le scientifique, c'est l'inverse. Il s'est fait aussi attaquer quand il était jeune.
Oui, mais oui.
Lui, à l'inverse, il va les étudier.
Pour les comprendre, en fait. C'est là où, en fait, on différencie différencie l'intellect de, on va dire, de la brute.
Oui, c'est ça. Mm. C'est ça.
Les sous aussi, il avait les sous pour aller faire les études.
Oui, parce que c'est clair que le faire un petit bateau quand même, je pense qu'il avait vraiment de la caillasse.
Alors ceci dit, ça peut marcher quelquefois, les pêcheurs, les hommes de terrain sont des grands techniciens parce qu'ils ont l'expérience.
Ah oui,
et au début, on prouvé. Peut penser, ouais, justement. C'est ça qui marche aussi dans le film, hein. Vous savez, on se dit, bon, tous les autres pêcheurs ont raté, ils se sont démerdés comme des... pourtant, la patte du gain était là. Lui, il arrive, il y arrive très cool, il ne se précipite pas comme les autres, il attend que toute la folie soit passée, et il arrive avec son machin, sa technique et tout ça. Ça aurait pu marcher, sauf qu'il ne savait pas que l'engin, il était 10 fois plus gros que ce qu'il pensait.
Bah, c'est ça qui est étonnant, parce que du coup, le scientifique, en fonction du diamètre de la morsure, explique la taille du requin, en fait.
Ouais.
Donc tu dis, bah, le mec, il fait déjà 3-4 mètres, quoi. Il fait la taille d'un immeuble, le mec, il va avec son petit chalutier. Alors, expert ou pas, on est quand même parti sur un mastodonte, en fait.
We gonna need bigger boat.
Oui, on aura besoin d'un plus gros bateau.
Un chasseur, un pêcheur est toujours persuadé qu'il a ce qu'il faut parce qu'il a la technique, parce qu'il a l'expérience. Il se dit, moi, avec mon petit bateau, j'y vais, quoi.
Ah, mais faut voir la taille du monstre aussi. La machine aurait pu bouffer l'île en 2 secondes. Hein.
Voilà.
Il a préféré des vacanciers. Et on l'en remercie. Mais bon, on va pouvoir lancer en fait le truc. À la base, je voulais vous faire un petit retour d'abord sur la soirée Blade Runner avant de lancer dans le vif du sujet. Finalement, on est parti vraiment tête dedans, qu'on a foncé dans l'eau directement. On fait quand même un petit retour sur Blade Runner.
Oui, bien sûr.
Et après, on va continuer avec Les Dents de la Mer, un très très bon film qui, j'avoue, à chaque fois que je le regarde, me file des angoisses. Les Dents de la Mer. Mais on repart sur Blade Runner pour faire un petit débrief.
Hein. Ouais. C'est fait pour.
Il y a eu du monde au cinéma pour Blade Runner ?
Il y a eu 30aine de personnes. C'était pas mal. Un film qui a bien marché. Les gens étaient ravis. Moi, je suis toujours très intéressé parce que c'est un film qui ne peut se concevoir que sur un grand écran. Sur un petit écran, on perd 9 dixièmes du film.
J'ai vu sur un petit écran et j'avoue que je pense que j'aurais préféré le voir en grand.
Ah oui. Ouais. Et bah plus l'écran est grand, plus c'est fantastique. Moi, l'ai vu. J'ai eu la chance de le voir une des premières fois sur un écran immense à Paris. C'était exceptionnel. C'était vraiment gigantesque.
Bah, parce que les décors sont impressionnants.
Bah ouais, les décors. Ça. Voilà, tout est dans les décors. Hein.
C'est vraiment une musique que j'ai adorée de ouf. Moi,
la musique de Vangelis.
Hein. Ouais, vraiment.
C'est quelque chose.
Hein. Bah, ça te crée une petite ambiance avec les décors. Il y a tout, quoi.
Ah, ça va bien.
L'histoire en soi, bon, tu suis le truc. Je suis mitigé. On en a parlé. On a fait une émission dessus. Mais vraiment, décor, musique.
Mais Ridley Scott, c'est un esthète, hein. C'est un plasticien à l'origine. Et donc, il voulait vraiment appuyer ça sur les décors. On reconnaît les décors, on en avait parlé, hein, les décors de Metropolis, hein, parce qu'il va chercher des références aussi. C'est quelqu'un de cinéphile, Ridley Scott. Et donc, il a cartonné là-dessus.
Voilà, c'était donc la fameuse musique des Dents de la Mer, composée par John Williams, à qui on doit notamment des musiques telles que E.T., Indiana Jones,
Et Danse avec les loups.
Et Danse avec les loups, aussi, qui est à,
enfin,
qui
des très sympa. À l'époque, ouais. c'est lui avec Ennio Morricone. Ils sont deux sur le marché de la musique cinéma. Voilà.
Bah, c'est l'un des plus grands compositeurs qu'on connaît, en fait, finalement.
Bah, à l'époque, oui.
Puis
bah,
il a des récompenses, je suppose.
Oui. Il a eu plein de récompenses.
Plein de
et
prix.
Là, il a eu un Oscar dans ce film, pour cette musique. Hein, puisque le film a eu 3 Oscars.
Ah oui, quand
même. Un pour le son, un pour la musique et un pour le montage.
Ah, il n'y en a même pas eu un pour le requin, parce que je trouve qu'il joue vachement bien quand même.
Alors, je vous en parlerai quand même du requin, ouais. Parce que ça, c'est notre problème.
Bah, oui, alors ça a été un gros problème sur le film, effectivement. Ouais. Alors, on va peut-être commencer par résumer un peu le film pour nos auditeurs qui ne l'ont pas vu. Ça m'étonnerait parce que c'est quand même un film très très connu. C'est vrai qu'il ne passe pas tous les étés non plus à la télé, mais est-ce que quelqu'un veut nous faire un petit résumé?
Alors, je me jette à l'eau parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc il s'agit d'une petite cité balnéaire qui, comme tous les étés, va avoir sa population qui va être multipliée par 10 voire 100. Et tout se passe bien, sauf qu'à un moment donné, on découvre les restes d'une jeune nageuse, les restes atrocement mutilés. On se pose la question, est-ce qu'elle a été prise dans les pales d'un hélice, dans les filtres d'un barrage, des rochers, tout ça, mais c'est quand même étrange. Plus tard, il y a un chien qui disparaît, puis quand c'est un enfant qui est mangé par le requin fait son apparition, là, c'est la catastrophe. Et il y a une espèce de confrontation qui se fait entre le maire qui veut à tout prix sauver, parce que ça se passe au moment donc
de... Le 4 juillet.
Voilà, le 4 juillet, le début de la saison. Et le maire veut sauver sa saison. Et Brody, le shérif de la ville, lui, veut assurer la sécurité de tout le monde. Donc, y a, voilà, la confrontation va être entre ces deux personnages-là. Le maire qui est totalement nul, hein, lui, oui. Il ne pense qu'à son côté économique, saison touristique, etc. Et Brody qui, lui, et qui est le personnage principal du film, qui va lui assurer la sécurité. Donc tout va être mis en route pour essayer de trouver des solutions, comment capturer ce grand requin. Voilà. Alors la première étant, on dépense de l'argent pour aller essayer d'attraper ce requin, ça ne marche pas.
Et il propose 3 000 $ pour
c'est la mère de l'enfant qui propose.
Oui, c'est vrai.
Voilà,
de l'enfant qui est mort. Ouais.
De l'enfant qui est mort. Après, il y a l'intervention du scientifique qui arrive de l'université pour essayer d'apporter ses connaissances. Mais il est un petit peu, au début, il est un petit peu moqué. Dans la cité, on pense que c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Et puis, finalement, il y a ce pêcheur qui s'appelle Quint, qui lui arrive avec sa connaissance, son bateau, qui va quand même participer à la capture de ce navire.
Oui, maintenant, c'est pas lui. Servir d'appât. Hein.
Oui, mais il amène quand même sa connaissance. C'est quand même lui qui amène le bateau, le matériel et la fameuse la bouteille, le bloc qui va.
C'est un sacré fusil de comment on dit.
Un harpon.
Non, mais le. J'en reparlerai plus tard.
D'accord.
Ouais. Voilà.
J'explique.
Et donc, c'est lui qui va amener les deux autres, et c'est à trois, finalement, qui vont l'attraper. Mais le vrai héros, celui qui va tuer le requin, c'est Brody.
Ouais.
Donc, c'est Brody le qui n'est pas fait pour ça, parce qu'il n'est pas pêcheur.
Et puis, il n'aime pas l'eau.
Il n'aime pas l'eau, voilà, c'est ça.
Qu'est-ce mais que vous faites ici?
Mais c'est voilà, clair, le mec, on se demande pourquoi.
C'est lui. Voilà un petit peu. Donc,
ouais, un bon résumé, ouais.
C'est un résumé d'un film d'angoisse. Hein. Alors, juste une chose, à l'époque, on est en plein dans la vague des films catastrophes. À l'époque, il y a eu La Tour Infernale, qui a très bien marché. Le tremblement de terre, qui a moins bien marché, mais voilà. Et donc, on est en plein dans ces films catastrophes. Les gens adorent se faire peur avec ça. Et donc, Spielberg a lu le scénario d'un petit bouquin de Peter Benchley. Et il se dit, il va travailler avec ce
type. Qui est sorti l'année d'avant, d'ailleurs.
Voilà.
En 74.
Il y a un des producteurs qui lui a demandé de le refaire.
Oui.
Parce que la première mouture a été trop humoristique. Il a dit, non, moi, je veux quelque chose qui fasse peur.
Là, il a travaillé sur le scénario du coup, avec un autre scénariste, mais malheureusement, j'ai oublié le nom.
Gottlieb.
Oui.
Quelque chose comme ça. Voilà.
Oui. Alors, vous, quand vous l'avez vu la première fois, quel effet ça vous a fait d'avoir vu ce film? Est-ce que vous êtes allé vous baigner après? Ou est-ce que vous avez attendu un petit peu?
Je l'ai vu cette semaine.
Ah oui, donc est-ce que tu iras te baigner cet été?
Parce que c'est bizarre, je crois que c'est le genre de film qui, à la base, je pense que moi, j'ai dû avoir des échos de choses qui ont repris ça en beaucoup moins bien, style Sharknado, ce truc d'attaque de piranhas, ceci, de ceux-là, les films catastrophes, les blockbusters.
Sharknado, c'est pas un truc avec des requins et des tornades?
Oui, enfin, des choses comme ça. Non, mais je vois.
Ça devient
les chasses aux tornades, les machins comme ça, ça a jamais été trop mon truc, et je pense que du coup, bah déjà, quand ça passait, au début, j'étais trop petite, mes parents ont certainement pas voulu que je le voie. Et plus tard, ça m'attirait pas forcément. Donc, quand je l'ai vu, ce qui m'a intéressé, c'était plus la manière dont c'était fait que vraiment le côté peur, en fait. Donc, moi, j'ai pas eu peur. Par contre, j'ai été étonnée, par exemple, Jean-Pierre parlait de cet enfant mort au bout de... C'est la deuxième victime au bout de 20 minutes de film. Oui, si on compte le chien. Mais c'est vrai que le chien, il disparaît, on sait pas trop.
Oui, on voit pas.
Moi, en fait, oui, non, mais voilà.
L'enfant.
Justement, ça m'a étonnée qu'un film de cette époque tue un enfant comme ça très tôt dans un film. Voilà.
Puis on le voit bien crever quand même. Hein.
Oui. Voilà, des choses comme ça. Et ça, ça m'a marqué. Plus, c'est plus dans la technique et la manière dont ça a été réalisé que la peur elle-même. Mais je pense que c'est parce que je l'ai vu étant adulte et sachant ce qui pouvait arriver.
Oui, et puis
parce que c'est tellement culte que du coup j'avais déjà mais la musique, je la connais alors que je l'ai pas vue, quoi.
Bah, surtout que la musique, on la connaît pour plein de références culturelles, en fait, très très pop. À quand un featuring avec Doja Cat, mais
alors, vous savez que la musique, elle a été aussi pompée parce que comme c'est une musique très angoissante, elle a été pompée pour faire le générique sonore, l'entrée musicale du 20h de TF1.
Mais non.
Mais si.
Mais oui, c'est vrai.
Mais si.
Ah bon?
Mais si. Il y a toute une étude, vous allez sur Internet, sur YouTube, vous mettez la musique d'Anne de la Mer et générique TF1, vous allez retrouver toute l'explication comment vous avez la fabrication du générique TF1, qui s'est vraiment directement inspiré parce que c'était une musique d'angoisse. Et comme TF1 se voulait l'émission angoissante qui allait présenter les trucs catastrophes et tout ça, ils se sont inspirés de cette musique.
Bah, tu m'étonnes que le monde va mal après tout ça. Ah non, mais c'est vrai, après TF1, c'est pas une chaîne de référence non plus. Hein,
donc, non.
Non, genre, maintenant, il y a CNews, BFM, qui sont dans la même mouvance.
Oui, oui.
On vous fait peur, on vous raconte tout et n'importe quoi.
Ah,
on
mais sait TF1, pas de quoi on parle, mais... oui, ils sont has-been maintenant.
Hein. Ah oui, ils ont été dépassés par d'autres clowns. Ouais. Voilà. Je vais avoir des soucis avec l'ARCOM, moi. D'accord. Et toi, du coup, Jean-Pierre?
Alors, moi, je sais que ça avait été un peu monté en sauce. Hein. Les Américains sont très forts pour là-dessus. Ils avaient fait la même chose pour l'exorciste en disant que des gens tombaient dans les pommes, qu'on donnait des petits verres d'alcool pour remonter les gens parce que le film était tellement épouvantable. Donc, quand ils ont annoncé le film en disant que c'était terrible, qu'on allait avoir peur et tout ça, je me suis dit ok. J'ai trouvé que la première scène, la scène d'introduction est magnifique. Elle est angoissante. J'ai pas eu peur, mais une sorte de malaise, de mal-être quand même, hein, parce que la musique a un rôle fondamental. Ça c'est clair. De première chose. Et deuxième chose, les plans séquences de Spielberg sont extraordinaires. Ce type-là, ce petit jeune que personne ne connaît à l'époque, il a eu un talent énorme.
C'est là que je pense que les gens se sont dit « Ah ouais, là on a affaire à quelqu'un qui non seulement sait de quoi il parle, mais qui en plus va au-delà de ce qu'on connaît. »
C'est ça.
Et là, il a foutu les miquettes à tout le monde. C'est vrai, vraiment à la sortie, il y a eu un creux pour la saison touristique. Les gens voulaient plus aller se baigner, ils allaient plus à la plage. Ils sont tous partis ailleurs en vacances, mais il y a plus personne qui a voulu... Enfin, plus personne. très très peu de gens finalement sont allés à la plage, à la mer, mais beaucoup de gens ne voulaient plus se baigner. Et ça a été un gouffre financier pour la côte.
Ouais.
C'est incroyable.
Ouais. Il a fallu qu'ils fassent des émissions pour rassurer, même Cousteau.
Ouais.
Cousteau s'est plaint en disant que c'était quand même si c'était le requin blanc, mangeur d'hommes et tout ça, que c'était pas du tout inspiré du vrai comportement et qu'ils avaient faussé quand même. Ah, lui était en colère. Cousteau se mettait souvent en colère, de toute manière.
Oui, oui.
C'était connu.
On dit, c'est un film, ça va, c'est qu'un film. Mais c'est vraiment hyper traumatisant. Et moi, j'avoue, je l'ai revu du coup pour préparer l'émission. Et je l'ai vu, je devais avoir peut-être 14-15 ans. Mm. Parce que j'avais un ami qui l'avait. Il me dit, viens, on va regarder Les Dents de la Mer, c'est l'été. C'est un film qui fait peur, on est assez grand. Alors, du coup, on se dit, ça va, 14-15 ans, un requin de l'eau. Moi, j'habitais en Bretagne. Bordé de côte. C'est vrai que ça m'a bien foutu les miquettes, et en le revoyant, finalement, il y a toujours cette angoisse qui te submerge quand t'as la musique qui arrive, quand tu sais que t'as le requin qui arrive, tu fais « Ah bah oui, il va se faire bouffer, je le sais !» Mais t'es là, tu fais « Oh non, non, pourquoi ?» T'as l'impression que c'est toi qui vas te faire dévorer, puis tu le vois avec sa grande mâchoire et qui... Il y a du sang beaucoup partout, mais... Avec les gens qui crient, qui s'affolent... Vraiment, c'est hyper bien fait. Ouais, franchement, t'es dedans. Ouais, t'as l'impression d'être sur la plage, d'être en stress. Tu sais pas ce qui se passe, il y a un truc qui se passe, mais je ne sais pas quoi. Et tout ça, quoi. Et puis même cette scène où t'as t'as deux gamins qui font croire que c'est un requin. Tout le monde sort de la plage, la panique.
Ouais.
Et d'un seul coup, au loin, t'entends « Il est dans l'estuaire! Le requin est dans les temps !» Et du coup, tu l'entends au loin et puis tu vois le chef et « Quoi ?» La femme du shérif qui vient dire « Ah !» Mon Dieu, Sean est là-bas sur son bateau. Du coup, et moi je fais, oh mon Dieu, non. Et je ne me souvenais pas de cette scène-là. Et puis juste la meuf qui est là sur son petit bout de caillou, en train de dire, là-bas, il y a un requin. Tout le monde qui se met à courir, à paniquer, je fais, il y a des enfants, non. Qui sera mangé en premier? Et du coup, je sais pas, j'étais vraiment tenue en haleine, tu vois. Et une grosse miquette. Hein. Moi, je suis là, je vais arrêter, j'ai besoin d'un chocolat chaud. Mais vraiment. Il a très très bien réussi son pari. Et je comprends, moi perso, j'irai pas me baigner cet été, no way.
Ah ouais?
Oh. Ah bah non, c'est moi, je suis traumatisée pour au moins un été, quoi.
Mais c'est rigolo parce que je pense que, ayant vu certainement des films qui se sont inspirés de ce style, c'est quand même un des premiers blockbusters, etc. Et moi je me retrouvais plutôt du côté de Brody à. En fait, ça se voit, c'est un policier, on l'a pas dit, je crois, qui vient de New York à la base, donc qui doit être habitué à des mouvements de foule, à des choses où... Parce que là, c'est une station de balnéaire, finalement, assez tranquillou.
Ouais, mais il est pas habitué à la même chose, il est habitué au crime, au
Non, mais viol, justement, racquet, mais parce que si tu regardes au début, quand il y a les deux enfants qui font ce prank de... il y a deux requins dans le... Enfin, vers les enfants, quoi. Lui, tout de suite, sa réaction, c'est... Non, pas le sifflet, parce qu'il sait que ça va faire un mouvement de foule et que ça va être la panique.
Voilà.
Et moi, j'étais plus dans ce côté-là de genre, oh là 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 là, il gère vraiment n'importe comment. Le maire gère n'importe comment, les gens autour gèrent n'importe comment, les maîtres nageurs gèrent n'importe comment. Et moi, je voyais ça, en fait, plutôt, tu vois. Et je pense que c'est parce que j'ai vu plusieurs films qui reprennent le même trope, qui reprennent les mêmes choses, et je m'y attendais presque un petit peu. Par contre, qu'après, tu dises, effectivement, tu vois, genre, il est dans l'estuaire, non, il est vraiment juste à côté, et en fait, t'as cru que c'était fini, le mouvement de panique, c'est bon, c'était deux enfants qui jouent, et en fait, pas du tout, il était juste à côté, voilà, et c'est encore pire parce que tous les gens qui pourraient aider sont à l'autre bout. Ça, je suis d'accord, je me suis laissé prendre aussi.
C'est pas mal fait.
Ouais, et puis, enfin, je veux dire, les enfants sont vraiment des gros teubés parce qu'il y a comme eu des morts avant, on sait qu'il y a une attaque de requins.
Mais c'est les enfants du policier,
mais oui, non, mais non.
Ah, ceux qui font les blagues, oui.
Et du coup, tu dis, mais. C'est pas drôle, bonhomme. Il y a un de tes camarades, quelqu'un qui a ton âge, qui est mort dévoré par un requin il y a deux jours.
Mais ce sont des ados, ils sont dans la provocation, ils cherchent à s'amuser. On est aussi à l'âge où on fait des blagues. Il y a les gamins sages, mais il y a aussi les gamins qui cherchent un peu à aiguiser ça. Non, non, ça ne m'étonne pas.
Moi, je me dis que ces gamins-là, ils sont vraiment cons, quoi. Parce que, je veux dire, tu dis, on sait qu'il y a un requin qui a dévoré des gens, on sait qu'il y a une panique. Et mec, on va leur faire une blague. Tu fais, mais. Il y a quelqu'un de ton âge qui est mort dévoré par un requin.
Mais dans tous les films où il y a des ados comme ça, il y a les enfants qui jouent le jeu, et puis t'en as un qui va s'amuser à faire un petit peu, à pousser. Puis ça permet de dramatiser un peu, justement.
C'est vrai, ça fait une petite scène comique, finalement. Voilà. Justement, parlons-en de ces gens qui gèrent très très mal une crise. Moi, je me disais qu'au-delà de ce qu'on disait tout à l'heure, de la bataille entre l'homme et l'animal, il y a aussi cette bataille entre le shérif, l'homme de loi, l'homme de raison avec l'océanographe et le politicien qui clairement lui pense qu'à de la thune et pas
d'économie.
Du tout, ouais, que, voilà, que bah oui, à l'argent, plutôt qu'au bien-être de ses concitoyens et des touristes qui viennent, parce qu'à plusieurs reprises, il va dire oui, non, c'est pas ce que c'est, ça se trouve, ça peut très bien être un bateau pour la première victime. Le médecin, au début, il dit que bah c'est une attaque de requin. Après, oui, non, peut-être qu'effectivement, ça pourrait être un bateau. Donc ils sont pas encore sûrs à 100%. Dès le deuxième meurtre, on va dire pour l'enfant, parce que clairement, personne tient compte du chien. Là où tout le monde a vu l'attaque de requin, le mec, il continue, il dit non, mais on va pas fermer la plage, on va voir ce qu'on peut faire, on va, vous pensez à l'économie, tu fais, mais un enfant est mort sous tes yeux, t'étais là, et en plus le gars, lui il se mouille pas, le maire il va jamais à l'eau en fait, il est toujours en costume sur la plage,
Et sûr.
Il va jusqu'à dire à quelqu'un, allez Robert ou Roger, je sais pas quoi, montrez l'exemple, allez vous baigner,
voilà,
donc il dit au mec, mais en fait c'est qu'il sait ce qui se passe, et du coup tu dis, mais comment tu peux être un monstre à ce point là quoi, tout ça pour de la thune.
Il y a la pression des commerçants de la station balnéaire aussi.
Oui, il y a avec une dame là qui dit qu'elle a un hôtel, un truc comme ça. Elle fait, moi je sais pas pour vous, mais j'ai un avis. C'est, mais toi on s'en fout de ton avis, va te baigner. Mais franchement, prends ta bouée et va au large.
Il y a ça et il y a aussi le fait que Brody est discrédité, tout comme l'océanographe, pardon, du fait qu'ils ne viennent pas de l'île. Et à plusieurs reprises, il y a des gens de l'île qui expliquent, ils le disent, je crois qu'à un moment donné, il y a une femme qui le dit à la femme de Brody. Je ne sais plus son nom parce que de toute façon, elle sert à là juste pour crier. Quoi. Et elle lui dit, oh bah, de toute façon, tu seras jamais considéré comme venant d'ici. Vous venez pas d'ici. Et du coup, dès le départ, il n'est pas écouté vraiment, parce qu'en plus de ça, il vient d'ailleurs.
Mais le mec, il est quand même océanographe spécialiste de requins. Excuse-moi, mais tu peux difficilement trouver plus spécialiste.
Il est quand même vachement hautain aussi. Tu dis qu'il est moqué, mais moi, je le trouve très hautain dans sa manière de faire. Il se moque dès le départ des pêcheurs, ils vont jamais y arriver, etc. Et il est toujours un peu, au début, et il est en confrontation avec Quint à cause de ça. Parce que il refuse un peu d'avoir tort, il est assez jeuneux, etc. Il pense qu'avec ses études...
Il se la pète en tant qu'universitaire.
Il se la pète en tant qu'universitaire.
C'est parce qu'il est jeune aussi, il a besoin d'une reconnaissance, il faut dire.
Oui, mais bon, c'est pas une raison pour... Parce qu'en fait, le but, c'est de travailler main dans la main. À partir du moment où tu arrives en disant « moi, je sais, toi, tu sais rien », c'est sûr qu'il y a conflit, personne ne peut s'entendre, quoi. Mais moi, je me demandais justement si l'auteur du livre ne voulait pas faire passer un message, ou peut-être même Spielberg, sur le fait qu'effectivement, les politiciens, les commerçants ne préfèrent pas, eux, penser à l'argent plutôt qu'au bien-être des gens.
Je pense que Peter Benchley, quand il a écrit son bouquin, il n'attendait pas ça. Il voulait faire juste un petit bouquin
Il a
eu cette idée du requin parce qu'en 1916, il y avait effectivement eu une plage qui avait été avec une attaque de requin sur une plage. Et il est parti de cet exemple pour faire un petit bouquin qui fasse un peu peur, quoi. Voilà. Mais non, l'idée de... Vous savez, on est aux États-Unis. Aux États-Unis, le fric et tout ça, c'est normal.
Non, mais après, c'est des choses qui peuvent très
l'argent, bien arriver en France aussi. On ne touche pas, l'argent, c'est sacré. Donc, on ne va pas trop s'attaquer. Il n'y a que Hollywood qui, de temps en temps, ose faire un petit truc caricatural pour se foutre...
Là, d'ailleurs, sur Netflix, un film sort, s'appelle Sous la Seine, et ça parle d'un requin dans la Seine, pendant une compétition olympique de natation.
J'en ai entendu parler.
Très drôle, il vient de sortir, il sort cette semaine sur Netflix, vous pouvez... du coup, quand vous allez entendre ça, il est déjà sorti. Mais donc, il est sorti sur Netflix, et là, c'est pareil, on reste sur l'idée de... pareil, des dents de la mer, mais sous la Seine... Alors, vu la gueule de la scène, je pense que le machin, il est à moitié zombie, quelque chose comme ça, parce que c'est pas possible. Un requin dans la scène, il est mutant. Donc il a 6 bras, 3 nageoires, enfin bref. Mais apparemment, le film est sympathique, donc n'hésitez pas à le voir si vous voulez faire une frayeur avant d'aller regarder les compétitions olympiques.
Moi, je voudrais vous parler quand même des conditions de tournage. Parce que les conditions de tournage ont été particulièrement mauvaises. D'abord,
sur l'eau, c'est pas évident.
Oui, il y a ça. Mais d'abord, il y a eu une menace de grève.
Ah, c'est pas à cause du mécanisme des requins qui était trop casse-cou, trop galère, alors, et que du coup, ils en avaient marre, les gens.
Il y a eu pire que ça. C'est qu'il y a eu un bateau qui a coulé, carrément. Oh. Le premier bateau de pêche qu'ils ont lancé, il a été lancé et il y a eu un mécanisme qui a mal fonctionné. Il a pris l'eau. Oh. Et donc, il y avait tous les techniciens, tous les mecs, et ils ont dit « Ah, faut nous ramener tout ça.
Bah, »
Et
ils ont renoyé, j'avoue que ça t'inquiète.
Et donc, ils ont dit « Ouais, on s'en fout des acteurs, mais nous, on est les techniciens, on a le matériel, c'est l'argent, quoi. » Et donc, ils sont allés les chercher, ça a été... Du coup, les acteurs, il y a eu une espèce de rébellion, c'est quoi cette histoire ? Et ils ont menacé de faire grève. Donc, il y a eu ça, il y a eu un temps épouvantable, menace de tempête qui n'a pas aidé, mais ça, c'est dans tous les films qui se passent sur l'eau. Et puis il y a eu l'histoire des trois requins animatroniques. On est au début des animatroniques, on n'est pas encore à Jurassic Park où là ça fonctionne bien.
Bah, on est au début. 75 quand même. Bah, donc.
Et donc les requins, ils fonctionnent très mal. Et donc Spielberg va essayer de compenser ces requins qui paraissent ridicules à l'image. Lui, il a envie d'avoir de belles images. Donc il va compenser par des scènes de plongée pour essayer de cacher au maximum ce qui pêche par le mécanisme, par la mécanique.
Bah, d'où la musique, en fait. La musique a été mise en place pour créer, en fait, cette idée qu'il arrivait parce qu'on ne pouvait pas le voir à l'écran, parce que le machin, il pèse une tonne et que du coup, pas facile à le manier, en fait.
Voilà.
Il avait d'ailleurs donné un petit prénom très sympathique qui s'appelait Bruce, c'était le nom de son avocat. Alors, est-ce qu'il était en un problème? Non, je crois qu'il était en conflit avec son avocat à l'époque, probablement. Et donc, du coup, il avait donné le nom de son avocat au requin qui s'appelle Bruce.
Ah, d'accord.
C'est mignon, hein. Bah, pour l'avocat, peut-être moins, mais Bruce, c'est un beau nom pour un requin.
Alors, vous savez qu'il y a un parallèle, justement, entre ce film, Les Dents de la Mer, et le tout premier film de Spielberg, qui a été fait juste avant, qui était un film de sortie d'école. C'est-à-dire que pour obtenir son diplôme, il a fait un long métrage.
Comme dans toutes les écoles de cinéma, finalement.
C'était un moyen métrage, d'ailleurs. Mm. On appelait ça un moyen métrage parce qu'il n'était ni long ni court. Et ce film, il s'appelait Duel. Alors, Duel, si vous ne le connaissez pas, moi, je vous le recommande parce qu'il est extraordinaire. C'est un type qui est en train de rouler. Ça a l'air de rien. Hein.
C'est un truc avec un camion.
Voilà, c'est un type qui roule tranquillement sur une petite route, dans une décapotable. Il est heureux, comme tout. Et il y a ce camion qui vient lui bouffer la vie. Au début, ça commence par... il essaie de doubler le camion. Le camion, se laisse pas trop faire. Mm. Et puis, finalement, il réussit à le doubler et il lui fait un doigt en lui disant « T'as vu, hein, avec ma bagnole... » Et là, le duel commence. Et pendant les 80 minutes que dure le film, ça va être une course-poursuite entre ce camion dont on ne voit jamais le chauffeur. On ne fait que le deviner. Le camion, le monstre et la voiture. Et Jaws, Les Dents de la Mer, c'est pareil. Le Brody et le requin qu'on ne voit pratiquement jamais juste à la fin du film. Donc c'est un film d'angoisse, hein, c'est un duel entre un humain et un monstre, et dans de la mer, il a repris un petit peu ce thème qui a très bien fonctionné.
Mais oui, tout à fait. David contre Goliath, finalement.
Voilà, c'est ça.
On reste dans les thèmes un peu classiques.
Ouais. Mais moi, je vous le recommande parce qu'il marche très, très bien.
Ouais,
la question suspense, c'est un très, très bon film à suspense, Duel. Ouais.
Je vous propose une petite pause musicale avec, toujours extrait, bien sûr, du film Les Dents de la Mer, et la chanson s'appelle The First Victim. Autant vous dire qu'on est déjà dans le sujet. Allez, on s'écoute ça tout de suite. Et voilà, donc c'était The First Victim, donc effectivement une musique qui, comme vous l'avez entendu, montre l'angoisse, le suspense et l'attaque, tout ça en quelques notes. C'est purement prodigieux. Nous avons derrière nous Jacques qui rôde,
le monstre.
qui rôde dans sa cage de verre. C'est un peu, ça me rappelle la scène où, où l'océanologue est dans la cage et pourra voir le requin de près. On a exactement la même scène derrière nous. Et si on parlait un petit peu de Blockbuster, parce que ce film a quand même lancé ce genre. Voilà. Peux-tu nous en dire plus, Jean-Pierre, toi qui es spécialiste?
Oui, enfin, Lise aussi peut-être.
Ou plutôt Jean-Pierre que je pense.
D'accord. On ne savait pas ce que t'es, on n'a jamais utilisé le terme de blockbuster qu'après ce film, parce que ce film, en fait, ça a été un peu la fin de la série de catastrophes. Ce film a eu un dépassement de calendrier, et donc un film qui devait coûter 2,5 millions de dollars est arrivé à 6 fois plus, 12 millions de dollars.
Non, mais ils ont eu vachement de problèmes aussi, il y a tout qui coule.
Énormément de problèmes, mais surtout aussi dans la durée du temps.
Il y a eu des retards.
Spielberg voulait faire quelque chose de bien, les trucs qui ne fonctionnaient pas bien, le temps, la grève, enfin tout ça. Donc, ce film, ils ont failli l'abandonner parce qu'il commençait à coûter très cher, mais finalement, qu'est-ce qui a sauvé ce film? C'est la sortie. Parce que lorsque ce film est sorti, il a rapporté 260 millions rien qu'aux États-Unis.
Waouh!
D'accord? Et en dehors des États-Unis, 210 millions. Donc vous voyez, un film qui a ramené beaucoup d'argent. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, finalement, on fait un petit film qui sort avant les vacances, on y met les moyens, et c'est comme ça qu'est né le phénomène du blockbuster, un film gros budget que l'on sort en début des vacances. Voilà.
Et c'est marrant, ça.
Voilà. Et le film suivant, vous devinez jamais ce que ce sera l'année d'après, film de mer, Piranha.
Ah,
Piranhas.
Ça a lancé les Piranhas, voilà. Je l'ai vu quand j'étais petite, j'ai beaucoup ri.
Oui, c'était rigolo. Alors attention, à ne pas confondre avec Piranhas 3D.
Ah non, 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 moi je parle vraiment
du remake. Ouais.
Où la première scène, ça se passe, c'est deux jeunes gens, on va dire, entre 17 et 20 ans, qui veulent aller se baigner dans un petit truc. Ils croient que c'est une piscine, c'est marqué interdiction.
Oui.
Ils vont dedans, et en fait, c'est un bassin d'études de Piranhas. Donc ils vont dedans, et là. Ah, je fais bien les Piranhas qui attaquent, je trouve.
Oui.
C'était la première série des blockbusters qui ont
Est-ce
été
qu'on peut
lancés.
Dire que c'est un blockbuster aquatique ou pas? Parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns dans le même style.
Oui, il y en a eu quelques-uns, bien sûr.
Non, ça reste... ça fout bien les miquettes. Moi, j'avoue, pareil, les Piranhas m'ont traumatisé aussi, même s'il y a peu de chances que j'en croise un dans le coin, peut-être pas à La Rochelle, mais on sait jamais. Mais on peut peut-être trouver un requin à La Rochelle. Bon, pas un grand requin blanc non plus, mais...
Tu trouves ça, non?
À l'aquarium, déjà, c'est déjà pas mal. Déjà, en bord de mer, mais il y a de plus en plus, malheureusement, avec le réchauffement climatique, d'animaux qui viennent s'échouer sur nos plages ou qui viennent chercher à manger près des côtes, en fait. Aussi. Donc, on voit une augmentation aussi de prise de contact entre des requins, des orques et tout ça, plus près de nos côtes. C'est triste, d'un côté, mais faudrait pas s'étonner non plus s'il y a une multiplication d'attaques de requins dans les années à venir, parce qu'à un moment donné, ils vont peut-être finir par nous bouffer pour se venger.
Après, ils nous attaquent pas sciemment. Enfin, je veux dire, souvent, c'est qu'ils nous prennent pour autre. Enfin, ils prennent les humains pour d'autres animaux, etc.
Oui, apparemment,
c'est assez rare, en fait. C'est pas.
C'est très rare. Ils viennent autour des îles parce qu'il y a les déjections, les trucs de déchets. Et là, ils vont bouffer. C'est ce qui se passe notamment au niveau de l'île de la Réunion. Au lieu de faire en sorte que ça ne soit pas rejeté dans la mer directement, que ça soit filtré et tout ça, eh bien, ça attire les requins. Mais le coup des requins qui attaqueront, moi, j'y crois pas parce que les requins sont une espèce en menace d'extinction.
Ouais. Mais justement,
parce qu'à force de les chasser.
Savez-vous combien il y a d'attaques de requins par an? Par exemple, l'année dernière.
80, un truc comme ça, non, c'est pas ça. Non, j'aime pas, même pas tant que ça, c'est vraiment pas...
C'est 69 en 2023 et 63 en 2022. Donc on va sur une augmentation quand même.
Ah, oui.
On sortira le chiffre de 2024 quand on l'aura. Et savez-vous, attention petit quiz, combien y a-t-il d'espèces de requins en tout?
Ah oui, alors là, ils sont très très nombreux. Il y en a très très peu qui sont des mangeurs d'hommes.
Ouais.
Mais
il y a Requin Jack. Ah non, il fait peur de lui.
Il y a le grand requin blanc et puis le squale. Je crois que c'est les deux seuls. Hein. Le requin marteau aussi.
Ben, le requin tigre.
Et le requin tigre, voilà.
Et ben, il y a requin renard aussi, les
enfants. 529 espèces différentes de requins.
Ah là.
529. Alors du coup, tu peux vraiment avoir le choix sur qui tu... Il y a Jacques qui fait vraiment...
Le requin Jacques.
Jacques, il veut sortir. Ouais. Est-ce qu'on fait, une petite pause pour
laisser
Jacques
sortir? Oui, on
laisse
sortir
Jacques.
Tu peux sortir. Tant, 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 tant.
Voilà, le requin est sorti de sa cage. Bonne chance à toutes les victimes. Okay, bah vous voyez, finalement, pour 529 espèces de requins différents, 69 attaques,
c'est pas
ça
énorme.
Va. Et c'est principalement en Floride. Un endroit aux États-Unis où il fait chaud, où il y a beaucoup de personnes âgées.
Mais c'est ce que j'allais dire, tu lances les personnes âgées à l'eau.
C'est la régulation économique, finalement.
Il y en a sur les récifs coralliens aussi,
oui,
en Australie.
Bien sûr, bien sûr. Voilà, mais les principales attaques ont lieu en Floride. Après, ils ont aussi les alligators, les mecs. Hein. Donc la Floride, vraiment, il faut éviter. C'est vraiment le pire endroit du monde, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur ce film
Est-ce que je pourrais parler quand même de Spielberg? Parce que Spielberg s'est fait connaître... par son talent, notamment par deux choses. La technique du hors-champ.
Oui.
La technique du hors-champ qui permet justement de faire deviner le requin sans jamais le montrer. Et ça...
Maintenant, ça fait des économies, mais sur le coup, ça a coûté bien cher.
Ah non, oui, mais il faut la maîtriser. C'est pour ça, c'est le montage, c'est la musique qui va avec et tout ça. C'est le suspense, enfin voilà. Et puis, il y a un petit truc aussi, il y a une scène, et ça, je pense que tout le monde l'a vu, qui fait référence à une technique qui a été utilisée une fois par Hitchcock.
Vertigo. Effect.
Voilà, vertigo.
Le vertigo, c'est ce dont j'essaie de te parler.
La courte focale qui file un coup de stress à Brody quand il est sur sa plage et qui voit de loin, il imagine qu'il va voir le requin très loin dans la mer. Il est assis et il y a un effet de caméra qui est l'adjonction du zoom.
Et de la caméra qui se... En fait, la caméra se recule.
Voilà.
Et en même temps, on fait un zoom. Donc, c'est une sorte de zoom forcé. Et c'est même utilisé dans des dessins animés. C'est utilisé dans Le Roi Lion, quand Simba se rend compte que son père
va
se faire
attaquer. Oui, c'est vrai. Voilà.
Et ça accroît, ça a un effet...
Le stress,
Voilà, d'accroître.
En fait, on devrait faire ça quand on fait des teasers à la MJC.
Je crois que c'est Vertigo Effect ou un truc du style Dooley Zoom, quelque chose comme ça.
Ok,
bravo.
C'est un zoom contrarié.
C'est ça.
Excellent. Zoom contrarié.
Je suis presque sûr. Enfin,
et ça,
à vérifier.
Il a fait parfaitement. Hein, parce que.
Puis au bon moment, en plus.
Avec ses lunettes, assis sur son truc. C'est extraordinaire.
De toute façon, quand on voit ça, on sait tout de suite qu'il y a quelque chose d'angoissant. On ne le voit pas. En fait, c'est la réaction. Et le dézoom-zoom, là, qui fait qu'on se dit, il y a un truc qui va pas. Et en fait, dans notre tête, je pense que ça nous fait le même effet. On est assis, en même temps, on est au loin, quoi. Je pense que ça fait un peu cet effet-là aussi.
C'est le vertige, c'est vraiment ça.
Tout à fait. Je crois qu'il l'a utilisé qu'une seule fois dans le film, alors que tu dis, il y a pas mal de scènes angoissantes. On aurait pu faire la même chose, un vertigo sur le requin qui attaque quelqu'un.
Une seule fois, ça suffit.
Ouais.
Je pense qu'il faut
Non. Et si on parlait maintenant de cette fameuse scène finale qui est bien angoissante avec le bateau qui part. Alors, on va reprendre depuis le début. Les trois compères sont sur un bateau. On dirait le début d'une mauvaise blague.
Ouais.
Ils se bourrent un petit peu la tronche. Ils se racontent leurs blessures. Nanana. Ils se rendent compte qu'ils sont tous trois bonhommes et qu'ils sont contents d'être là. Et ils sont partis chasser finalement le requin.
Ouais.
En nuit, parce que c'est l'heure où il festoie, chacun ses petits horaires. Un peu comme les Gremlins, mais enfin bref. Et du coup, il y a la scène dans la cage, où l'océanographe va dans la cage. Et là, le requin, en fait, il la défonce, la cage. Mais genre comme on défoncerait un belin, en fait, finalement. C'est vraiment, il l'écarte et tout ça. Donc il arrive quand même. Cette scène est hyper stressante. Parce que tu dis, attends, qu'est-ce qu'il fout là? Comment il va s'en sortir? C'est sûr, il va se faire bouffer et tout. Et tu dis, mais le requin, il a la mâchoire puissante pour finalement le gober en un coup. Mais il préfère juste pousser du nez. Pour essayer de le récupérer à l'intérieur, comme les chats quand ils jouent avec des petites balles à croquettes là. Bon, le parallèle...
Poli.
c'est ça, tu mets une petite croquette dans une balle et le chat, il essaye de la récupérer, tu vois. Et ben là, c'est pareil, t'as l'impression qu'il a envie de jouer, le requin. Il a pas que faim.
Oui.
Il a envie de mumuse un petit peu avec le bonhomme, quoi. Qui, finalement, bah lui, bon, il s'enfuit, on le voit plus à un moment donné. Et après, cette scène mais magnifique où t'as le requin qui est en train de bouffer le bateau. Mais alors là, franchement, en un coup de croc, t'as la moitié du bateau qui est à l'eau, quoi.
Ouais. Ouais.
Et il passe par tous les coins.
Il entraîne le bateau ouais.
Déjà des
dans le fond
avant,
des eaux,
etc. Ouais. Mais on ouais. dirait qu'il est, enfin, il a presque une forme d'intelligence humaine, moi je trouve. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il, ouais, il se moque d'eux presque, je trouve. dans cette manière d'aller attaquer par en dessous, etc. Parce que je sais pas, moi je me dis, t'es un animal, tu te fais tirer dessus plusieurs fois, t'as des choses accrochées à toi et tu reviens à la charge sur le bateau plutôt que de retourner sur les côtes, essayer d'aller manger quelque chose, peut-être une proie plus facile, etc. Là, c'est vraiment une sorte de vengeance. Quoi, clairement.
Bah, oui, parce que c'est les deux bonhommes qui chassent. Nous, on disait tout à l'heure qu'en fait, les requins ont une mauvaise vue et que du coup, ben, ils attaquent les gens parce qu'ils les confondent avec autre chose. Là, clairement, ils défoncent le bateau pour bouffer les deux bonhommes.
Ah,
comme
oui.
ils défoncent la cage pour bouffer le bonhomme.
Oui, c'est vrai.
Ils très bien pu manger autant
de
choses.
Vengeance,
en fait. ouais. Alors, est-ce qu'ils leur devaient de l'argent? Je ne sais pas.
bah, ils se fait tirer dessus toutes les 5 minutes.
Non, mais après.
Il accroche des barils au bout d'un moment, il s'énerve.
C'est vrai. Non, mais. Est-ce qu'il, en fait, si on remonte un préquel sur le requin, sur Bruce, tu vois?
Ah ben c'est un prédateur, hein, ouais. C'est le prédateur, c'est lui qui est au sommet de la... C'est... Lui, dans l'eau, il est au sommet de la chaîne.
Non, c'est l'orque. L'orque peut le bouffer.
Ouais.
Ouais, mais là, pas
voilà. Ouais,
pas
dans l'histoire.
C'est pas encore assez...
T'imagines orque ouais. versus requin, le film. Bon, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a
fait quelqu'un qui a fait ce film.
Mais oui, parce que les orques, c'est pas très très sympathique non plus. Hein. Sauver Willy, ils ont l'air fun, mais en fait, quand ils sautent par-dessus le petit Willy, en fait, il essaye de l'écraser comme une merde et de l'aplatir. C'est juste que, ah, merde, j'ai pris trop d'élan. Mais sinon, il l'aurait bouffé, c'est sûr. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que le requin, bon, il est massif. Mais il se contente d'une proie tous les deux jours.
Peut-être qu'il mange d'autres trucs.
Est-ce qu'il a la diète? Moi, à sa place, je boufferais nettement plus.
Non, hein. Non, je crois que quand ils ont mangé quelque chose de... C'est un peu comme les serpents.
Ils ont une digestion lente. Il le dit, il a une digestion lente, du coup, en ouvrant le ventre.
Il n'attaque pas comme ça tous les jours, ça, c'est pas possible.
Ouais. Après, un enfant, c'est comme une tomate cerise.
Bah, oui, mais il a mangé une femme pas longtemps avant. Genre ouais. Un ou deux jours avant.
Non, mais il y a une digestion de 24 heures. Ouais. Donc techniquement, l'enfant ne devrait pas
non, c'est
faire.
Pas...
Tu me paries le chien, pas ouf.
C'est 24 heures, c'est l'autre qui trouve, c'est un autre type de requin.
C'est le requin tigre.
Ouais.
Non, mais bah, il dit que c'est que les requins ont une digestion...
Oui, enfin bref.
Pas bref. Oui, donc comme pour les serpents, qui ont une digestion lente, et c'est le seul moment où tu peux les attaquer, finalement.
Mmh. Et du coup, tu parlais de la scène finale, mais vraiment la scène finale, dont on parle d'une bouteille, etc. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est le...
Faut pas trop en parler.
Style... Non, mais je dirais juste...
Faut pas l'avoir vu, il sort 75.
C'est un fusil de Tchekhov, je crois qu'on appelle ça comme ça, c'est-à-dire qu'on en parle, et on en parle de cette bouteille. Elle revient plusieurs fois, on essaie de pas la faire tomber, etc. On explique même ce qui risque de se passer si on la secoue trop.
Ah, mais du coup, c'est justement pour ça. C'est ce qu'on appelle une préparation paiement.
Oui, une préparation paiement, ouais. Exactement. Que, bah, c'est ça, elle est là pour... Enfin, voilà, il est là,
c'est qu'elle est là pour quelque chose. Voilà.
Mais moi, il y a cette scène que je trouve un peu étrange. On voit le requin gober la... Clairement, gober la...
Il peut même pas la... Oui, il la met sur le côté.
Mais non, mais en fait, d'abord, il l'avale, en fait. Au début, il l'avale, en fait. C'est comme ça, après, on la revoit sur le teco. Oui. Et tu dis, mais je l'ai vu engloutir par là. Donc, c'est-à-dire qu'il me fait... Ah, je me la garde pour plus tard, je vais me faire d'abord un humain. Et après, du coup, l'autre, il lui tire dessus, bah, comme il peut, il galère, tu dis, allez, vas-y. Mais enfin, c'est vraiment du côté du yacht, tu dis, allez, vas-y, vas-y. Moi, j'ai eu de la peine pour le requin, quand même, parce que tu dis, il explose comme ça, tu dis, bah, pauvre petit père, tout ce qu'il voulait, c'était manger un shérif, mais, on peut comprendre, on pollue les océans, quand même. Donc, tu dis, bon, bah, ça vous apprendra à tous, peut-être. Parce que, ben, bah, il meurt, il explose, c'est vachement dur. Enfin, vous êtes déjà fait exploser? C'est hyper dur.
Je sais pas si on
c'est douloureux.
Bah, j'explose de rire de temps en temps, mais c'est tout. J'ai jamais essayé autre chose.
Moi, ce que je trouve fou, quand même, c'est que, voilà, il y a le. Donc, finalement, le Matt Hooper revient. Il s'est pas fait bouffer ni rien.
Ah,
je sais
pas
trop
pas,
pourquoi.
Gars, en fait.
Non, mais il revient. Il a même pas.
Ah, mais attends, il est caché sous les corails, un truc comme ça, sous un caillou.
Oui, voilà.
Et le requin, bah non, les requins ont une. Mais tu vois, le requin, bah, en fait, finalement, il a vraiment envie de se taper les deux mecs sur le bateau, quoi.
Alors, ah, tant il a envie de. Ah oui, oui, lui, bon. Il a envie d'attaquer tout le monde.
Et du coup, il revient, il fait, oh là là, Quint, alors, bah non, il est Ah oui. Et ils repartent vers le soleil couchant, oui, en rigolant sur leur petit radeau de fortune. Et je sais pas, il y a eu mais combien de morts.
Mais surtout que le mec,
le shérif, a failli crever, et voilà.
Mais le shérif voit l'hôte se faire dévorer par le requin. Cette scène finale où vraiment, tu vois, le mec, il fait comme ça, comme on fait un pain toasté, c'est vraiment une mâchoire qui... Et puis tu vois l'autre qui gueule, le mec, tu sens qu'il se... D'abord la guibole, après tu sens que c'est le tronc, et tu vois son cracher du sang, tu te dis « Oh non !» Et là, toute cette scène, tu te dis « Mais c'est affreux, c'est horrible, il doit souffrir de la mort. » Puis le mec, il est comme ça en train de s'accrocher, puis après il fait « Ah, ah, je l'ai fait exploser, le gars. Allez, je t'invite à boire une bière. »
On va dire que c'est le traumatisme du survivant.
Mais il y a un truc qui va pas, tu vois.
Quinn, c'est pas le mec très très sympa non plus. Bon.
Mais c'est pas une raison pour se faire dévorer comme ça.
Ah oui, non, mais je veux dire, ils sont tellement contents d'avoir sauvé leur paillasse que voilà, je crois qu'ils pensent surtout à ça.
Oui, c'est vrai qu'ils ont sauvé la population. Tout,
hein, ça valait bien, ça valait bien un pêcheur. Hein.
Ça valait bien un pêcheur. Finalement, les pêcheurs ont le droit de mourir tués par des requins, tant que c'est pas des vacanciers.
Si on était Captain Igloo, ça aurait été encore mieux.
Captain Cousteau, finalement. Voilà. Ouais. Mais non, mais cette scène-là, en plus, tu le vois bien souffrir, quoi. Tu le vois,
oui.
Tu vois qu'il essaie de taper dessus, mais c'est déjà foutu, en fait. C'est déjà trop tard.
Mais il y a ça. Et moi, il y a un truc qui m'avait... Il y a une scène, je sais plus qui se fait mordre. Et un nageur, à un moment donné. Et tu vois vraiment la jambe
qui coule descend dans l'eau.
Et je l'ai trouvé vachement bien, en fait.
Cette jambe, vraiment bien.
Toutes les scènes sous l'eau, elles sont vraiment pas mal.
Je me souviens que j'avais vu, justement... Alors, c'était un reportage pendant l'été sur les requins et les attaques de requins. Ça devait être M6 ou TF1, je ne sais plus. Et en fait, il y avait un nageur, un surfeur qui avait été attaqué par un requin. Donc, le requin lui a mangé la jambe, en fait. Bon, le mec, il disait justement qu'il retournait quand même faire du surf, se baigner et tout ça. Et que du coup, ce qui l'a sauvé, c'est d'avoir mis un coup de poing sur le bout du nez du requin.
Oui.
Parce que c'est hyper sensible. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il a fui. Bon, il a quand même mangé la jambe. Mais... À savoir, si vous allez vous baigner, que vous voyez un requin qui vous attaque, donc c'est-à-dire qu'il a déjà votre jambe dans sa gueule, tapez fort sur le bout du nez. C'est le seul moyen pour qu'il s'en aille.
C'est vrai.
Et après, nagez vite. Donc, entraînez-vous dès maintenant à...
Balancer des directs et à faire des bons battements de jambes.
Si vous n'êtes pas trop loin de la plage, c'est jouable. Mais autrement, parce que le requin, il nage beaucoup plus vite que vous.
Oui, alors
on peut
surtout quand il fait 6 mètres. Quoi. Ouais. Là, il fait
6 mètres, t'as vu la taille du machin. Il fait la taille de la MJC, en fait. Imagine, le mec, il est posé là comme ça dans la course. Et ben non, on est tous à l'étroit derrière une nageoire. C'est l'horreur, quoi. Donc voilà, bon, je rappelle que ce film passera le 22 juin.
Alors juste pour conclure quand même, parce que Les Dents de la Mer est le premier de toute une série, il y en a eu 4.
Est-ce qu'on va voir la suite ou pas ?
Alors, le deuxième est visible. C'est la vengeance et la femelle de celui qui a attaqué.
Ah bah ouais, elle a perdu son mari.
Voilà, elle vient se venger. Il a été aussi écrit par Peter Benchley, qui a fait une suite à son bouquin.
Est-ce qu'il aurait dû
la bonne femme qui se venge ?
Est-ce qu'il aurait dû ? Non, mais vraiment, je vais écrire une suite sur une femme requin qui a perdu son mari et qui veut se venger.
Bon, voilà. Alors, il n'a pas été tourné par Spielberg, mais il se laisse voir. Par contre, les deux derniers, Dents de la Mer 3 et 4, vous pouvez là vraiment les éviter. C'est mauvais comme tout.
Est-ce que c'est comme les Evil Dead? Parce que les suites sont vraiment drôles. Hein.
Ah, je sais pas. Non, je crois que c'est même pas drôle. C'est très mauvais. Il n'y a pas de scénario. Il n'y a rien là.
Okay.
C'est creux.
Bah, comme les Evil Dead, en fait.
D'ailleurs, il passe jamais. On passe le premier.
Le 2 même pas.
Le 2,
j'ai peut-être regardé le 2, parce que je crois qu'en faisant des petites recherches sur internet, j'ai vu des extraits du 2, et je me dis, bah non, ça doit pas être le mien. Et il y a plus de femmes qui interagissent,
de dialogue déjà. On retrouve Brody, Brody est là jusqu'à la fin, lui.
Il a plus peur de l'eau, peut-être.
Il n'a plus peur de l'eau. Avec ce qu'il a, mec, tous les étés, il y a un requin. C'est comme Harry Potter, change d'école. Hein, à un moment donné, arrête, quoi. Bon, eh bien, merci beaucoup à vous d'être venus pour parler de ce film catastrophe, le premier du genre, le blockbuster. On espère que cela vous donnera envie d'aller le voir au cinéma et d'aller vous baigner. Et n'hésitez pas à taper un requin. Enfin, que s'il vous attaque. Sinon, vous allez vous faire attaquer par la femelle qui va se venger. Peut-être même les enfants. Bref, histoire de famille.
Et puis la scène d'introduction sur grand écran,
ah ouais, ça vaut
elle
le coup,
est magnifique.
Ouais.
Vraiment.
J'avoue. Allez, on se donne rendez-vous le 22 juin au cinéma Le Majestic. Et Lise nous aura préparé une petite soirée après. Est-ce qu'on devra se déguiser en requin pour
non,
venir?
Non, alors pas déguiser en requin. Déjà, c'est à 20h le 22 juin, je crois qu'on l'a pas dit.
Oui, non,
à
laquelle
c'était. Ce sera en version sous-titrée, enfin en version originale, sous-titrée ouais. Français.
Après, niveau dialogue, ça va.
À rappeler que c'est le dernier de l'année en termes de films cultes et que du coup pour fêter ça vous aurez un petit quiz cinéma, alors pas forcément cinéma culte, si vous n'avez pas vu tous les films qu'on a proposés durant cette année c'est pas grave, c'est plutôt des questions ludiques sous plein de formes différentes et il est à gagner des places de cinéma et où
trop bien.
Le moyen d'aller chercher une affiche qui vous plaira dans les archives du cinéma Majestic. Donc n'hésitez pas à venir. Et puis pour l'année prochaine, ben comme on dit, stay tuned, quelque chose comme ça. Restez sur les ondes, restez à l'écoute.
Mon anglais est pas assez bon.
Et voilà.
Et ben à très bientôt alors. Bah, à la
merci.
Rentrée, on va vous préparer un truc sympa.
Ça marche.
Salut.
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 Et on se quitte en musique, bien sûr, avec la musique de fin qui annonce que bah, ils ont tué un requin et qu'ils sont contents, même s'ils ont failli mourir. Voilà. Bonne soirée à tous.
My wife.
Bienvenue, welcome.